L'âme au loup, une histoire de névrose infantile.
Avec Roland Gory, psychanalyste. Roland Gory, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est l'histoire d'une cure à rebondissement qui aurait pu avoir pour titre Les métamorphoses de l'homme au loup et qui est restée un cas emblématique et même énigmatique, comme dirait André Green, de l'histoire de la psychanalyse. Il s'agit donc de l'analyse de Sergueï Pankeïev, un jeune homme atteint de dépression dont le récit fut publié en 1918 sous le titre « Extrait d'une névrose infantile ». Contrairement au cas de l'homme au rat, où c'est le travail et la logique de la cure qui sont exposés, ici c'est la reconstruction a posteriori d'une névrose infantile qui est l'objet du travail de Freud. Alors avant d'entrer avec vous, Roland Gory, dans cette reconstitution et d'examiner ensuite les échos nombreux de ce texte dans l'histoire de la psychanalyse, la première question pourrait être en quoi est-ce un cas exceptionnel ?
Alors c'est un cas exceptionnel à plusieurs titres, d'abord par la durée non seulement de la cure mais l'étendue sur laquelle se déploie toute la vie de l'homme au loup, puisque si vous voulez, il naît en Noël 1886, il meurt en mai 1979, 92 ans, enfin presque un siècle. Et pendant un siècle, nous allons assister aux grands événements qui ont marqué d'abord l'histoire et l'histoire européenne. Mmh. Donc il s'agit d'abord
l'histoire européenne d'ailleurs qui aura une importance, des conséquences dans sa vie directe.
Oui. Tout à fait. Donc si vous voulez, on va connaître la Russie tsariste avec un jeune homme extrêmement riche, dont le nom d'ailleurs signifie propriétaire, ce qui est fils de propriétaire.
Pankeïev.
Voilà, ce qui a également son importance du point de vue des effets, je dirais, de signifiant, pour jargonner quelque peu. Bon, ensuite, on va connaître Vienne, l'Empire austro-hongrois. On va connaître cette Vienne impériale. Et puis, la fin de sa cure est marquée par l'assassinat de Sarajevo, de juin 1914. La Première Guerre mondiale, qui va avoir extrêmement d'importance, puisqu'à un moment donné...
Il va être mobilisé ?
Alors, il ne va pas être mobilisé. Sa sœur aînée s'est suicidée. Il est fils, entre guillemets, unique. C'est-à-dire qu'il va être exempté. Mais par contre, dans le fantasme de Freud, Freud va penser qu'il a peut-être guéri un patient qui pourrait tuer son fils, puisque son fils est mobilisé sur l'autre front. Donc, Première Guerre mondiale. Bien sûr, la révolution d'octobre 1917, qui va ruiner l'homme au loup. L'homme au loup se retrouvera sans argent et il va fuir à ce moment-là à Vienne. Ensuite, il sera, comme vous le savez, il sera d'ailleurs aidé par Freud et la horde des psychanalystes, la horde des loups, des loups psychanalystes à ce moment-là, qui vont lui venir en aide pendant 6 ans, de 1920 à 1926.
Freud organise la collecte.
Organise la collecte, qui aura une certaine importance dans l'économie psychique.
On dit d'ailleurs qu'il a beaucoup de sympathie pour cet homme.
Alors, c'est surtout Sergueï Pankeïev qui dit que...
Il y a un transfert.
Il y a un transfert croisé. Mmh. Et puis, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale qui aura... D'abord, l'Anschluss, puisque finalement, sa femme, Teresa, se suicide en 1938, au moment où l'Autriche est envahie par les forces nazies. La Deuxième Guerre mondiale, avec une conséquence tout à fait terrible, puisque l'homme au loup et sa mère se retrouveront presque à mourir de faim, si vous voulez, durant cette période, n'est-ce pas ? Ensuite, l'aide américaine, Muriel Gardiner, et puis, bien sûr, les fonds, pourrait-on dire, les fonds analytiques qui vont venir aussi aide de différentes manières. Finalement, l'homme au loup soit un petit peu le fonctionnaire du mouvement analytique.
Oui, alors il a aussi cet aspect, vous le disiez, Roland Gory, en commençant, de héros de l'histoire de la psychanalyse en train de se faire.
Alors, héros
puisque,
et martyr à la
sur
fois.
Toute cette durée, oui.
Et c'est vraiment le témoin. Donc, si vous voulez, toute cette durée, c'est à la fois une durée donc historique, c'est une durée géographique. On se promène dans le siècle, on se promène dans l'espace des cultures européennes, et puis, bien sûr, alors la durée de la cure. La durée de la cure, c'était tout de même très exceptionnel, n'est-ce pas ? Une cure de 4 ans en 1910, de 1910 à 1914, et encore une cure de 4 ans, je dirais, une cure qui s'est terminée un peu sous la menace freudienne, puisque Freud lui a dit, si vous voulez, c'est la première fois où il y a eu une séance courte dans la durée, pourrait-on dire, puisque Freud, par quelque chose qui est de l'ordre de l'acting out, hein, considérait que son malade était un peu trop docile, qu'il résistait, que rien ne bougeait. Il comprenait tout, mais rien ne bougeait. Et ça, c'est un point très important qui reviendra dans la théorie par le biais de la question du clivage, n'est-ce pas ? Donc, il lui a dit, bah, de toute façon, avant les vacances, on arrêtera, nous étions en 1914. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'arrive très massivement le matériel dont nous parlerons sans doute tout à l'heure. Ouais. Mais si vous voulez, ce point est donc extrêmement important. Durée, donc, de la première tranche d'analyse avec Freud. Durée, parce qu'ensuite, bien sûr, l'homme au loup va revenir déprimé autour donc des années 1919-1920 pour une brève tranche avec Freud. Et puis Freud va l'envoyer vers Ruth Mac Brunswick, qui le prendra également quelques mois en analyse. Et ensuite, il va être aidé et pris dans une espèce d'accompagnement psychanalytique jusqu'à la fin de sa vie.
Finit d'ailleurs en asile psychiatrique.
Il finit en asile psychiatrique. Mmh. Il finit accompagné. On pourrait dire que vraiment, l'homme au loup, c'est aussi sa contribution, c'est l'analyse sans fin. C'est l'analyse interminable. Puisqu'ensuite, il aura même des conversations analytiques, comme il les appelle, toutes les étés avec Kurt Eisler.
C'est un peu le patient idéal.
Idéal, je suis pas sûr.
En un sens bien particulier, qui serait celui de cobaye.
Je pense que c'est le patient qui révèle à quel point la docilité est de l'ordre de la haine inconsciente. Je pense que c'est un patient qui, incontestablement, a beaucoup apporté à Freud et au mouvement analytique. Il en a été, d'ailleurs, d'une certaine façon, sacrifié sur l'autel du mouvement analytique. Je ne reprendrai pas les termes injurieux de ce qu'on appelle les tueurs de Freud aux États-Unis, n'est-ce pas ? Mais il a été...
Oui, ces historiens révisionnistes, on peut le dire.
Des historiens révisionnistes relisent un petit peu l'histoire de la psychanalyse sans en avoir compris ni l'épistémologie ni la philosophie.
Alors, Roland Gori, vous évoquiez donc l'arrivée du matériel à l'issue de la première cure, donc ce matériel, c'est le rêve. Si vous voulez, on va l'entendre.
J'ai rêvé que c'est la nuit et que je suis couché dans mon lit. Le pied de mon lit était contre la fenêtre. Devant la fenêtre se trouvait une rangée de vieux noyers. Je sais, c'était l'hiver lorsque je rêvais. Et de nuit. Soudain, la fenêtre s'ouvre d'elle-même. Et je vois avec un grand effroi que quelques loups blancs sont assis sur le grand noyer devant la fenêtre. Ils étaient au nombre de 6 ou 7. Les loups étaient blancs et avaient plutôt l'air de renards ou de chiens de berger, car ils avaient de grandes queues, comme des renards, et leurs oreilles étaient pointées, comme chez les chiens quand ils sont aux aguets. En proie à une grande angoisse, celle manifestement d'être dévoré par les loups, je poussais un cri et me réveillais.
Voilà, donc il s'agit du rêve d'enfance, d'un rêve dont se souvient le patient.
Alors, c'est un point extrêmement important, effectivement. C'est sous la pression, d'abord, de Freud, de mettre un terme à la cure avant les vacances de l'été, que le matériel onirique apparaît. C'est-à-dire, si vous voulez, donc il y a plusieurs versions du rêve qui apparaissent dans la cure. Et finalement, c'est un des points extrêmement importants de ce récit de Freud, c'est que la reconstruction de la névrose infantile à partir justement du rêve de l'homme au loup, n'est-ce pas, qui va effectivement aboutir à partir de détails, d'associations et de différentes versions. Chaque fois, on va revenir sur ce rêve. Chaque fois, on va revenir sur des souvenirs écrans, sur des détails, et on va essayer de reconstruire un petit peu comme un archéologue, si vous voulez, c'est la métaphore de Freud, comme un archéologue qui, à partir des débris, reconstitue l'objet. Et là, on peut dire que l'objet nous est donné de manière un peu trop stupéfiante, et Elisabeth Rudesco a parfaitement raison d'insister là-dessus, puisque, nous en parlons sans doute tout à l'heure, ça va faire un petit peu obstacle aussi à la cure, cette construction. Elle est trop belle, hein. Elle a un côté paysagiste qui, finalement, s'oppose à la démarche de l'archéologue. Alors, ce rêve apparaît, et à partir de ce moment-là, il apparaît donc quand même sous la pression, encore une fois, de la logique même du traitement. C'est-à-dire que on a, et c'est un des points fondamentaux, à mon avis, de ce récit de l'extrait de l'univers infantile, c'est qu'on a beaucoup plus l'histoire du cas de l'enfance reconstruite à partir de la logique du traitement que l'histoire du traitement.
Oui.
Ce qui est extrêmement problématique du point de vue méthodologique, bien sûr, pour un psychanalyste. Alors, Freud va reconstruire avec l'homme loup, n'est-ce pas, si vous voulez, les effets de ce rêve qui apparaît à 4 ans et qui change totalement le caractère de l'homme loup. C'est-à-dire que avant, on peut dire d'ailleurs que le rêve est d'une certaine manière, n'est-ce pas, le récit de rêve apporté par Sergueï Pankéïev est d'une certaine façon l'interprétation des interprétations freudiennes qui notamment avaient insisté sur la séduction par sa sœur à 3 ans et un quart. Ce qui est fascinant également, bien sûr, le patient est né à Noël, alors c'est plus facile de dater, mais quand même, on est un peu étonné de la précision avec laquelle, n'est-ce pas, on a la scène avec Roucha, qui est une scène finalement...
Avec la servante.
Avec la bonne, n'est-ce pas, où il la voit comme ça, à 2 ans et demi, il la voit en train de frotter le parterre, les fesses proéminentes, ça va donner...
La phobie des papillons, notamment.
Notamment, n'est-ce pas, avec justement un jeu autour de Groucha, c'est-à-dire la poire, une poire rayée, n'est-ce pas, jaune et rayée noire, et qui vont évoquer à ce moment-là, n'est-ce pas, cette phobie, notamment, enfin, cette phobie, cette angoisse devant le papillon, qui est un macaron, dit Freud, et qui se rapprocherait donc du prénom, encore une fois, de la bonne, et qui en même temps, cette scène d'excitation sexuelle où on suppose que Sergueï, à ce moment-là, urine, il se fait gronder, il se fait menacer, et quelque temps après, il est séduit par sa sœur Anna. Et donc, on est d'abord dans l'analyse, pourrait-on dire, des souvenirs écrans. Cette analyse des souvenirs écrans, où Freud finalement reconstruit que les rêves de l'homme au loup, selon lesquels il dévoile et il dénude sa sœur, sont en fait des rêves réactionnel à la séduction passive qu'il a subie à 3 ans et quelques de la part d'Anna, n'est-ce pas ? Ça, c'est un point extrêmement important. Et face à cette interprétation freudienne, c'est-à-dire Freud lui interprète en gros que dans une scène de séduction sexuelle, il était en position passive. Face à cette scène de séduction, à cette interprétation, il lui apporte le rêve. Et dans le rêve, n'est-ce pas, c'est le rêve qui fait basculer son caractère, puisque pour faire très simple, on pourra dire que entre 3 ans et 4 ans, n'est-ce pas, il se montre plutôt cruel, méchant, insupportable. Et Freud interprète justement du côté à la fois d'un masochisme par rapport au père, puisqu'il se fait châtier et punir par le père. Il a d'ailleurs une formule absolument splendide en disant que les éducateurs et les parents devraient réfléchir à la manière dont, en punissant les enfants, ils viennent répondre à leurs demandes masochistes. C'est quelque chose extrêmement important. Et en même temps, il insiste aussi sur la dimension sadique, puisque ses cris, ses hurlements, ses plaintes, son caractère insupportable venaient sadiser sa nania, donc sa bonne qu'il aimait plus que sa mère, n'est-ce pas ? Et chose extrêmement importante aussi, Sergueï avait dit que sa nania l'aimait d'autant plus qu'il venait à la place d'un enfant qu'elle avait perdu, n'est-ce pas ? Et c'est là où le rêve arrive. C'est-à-dire que le rêve arrive comme une réaction, pourrait-on dire, à l'interprétation freudienne sur la position subjective de l'homme au loup dans une scène de séduction sexuelle. Il apporte le rêve, et à partir de là, on peut dire que d'une certaine façon, Freud est pris aussi dans un transfert. C'est-à-dire qu'il lui apporte, il dit d'ailleurs, comme sous hypnose, cette phrase est extrêmement importante, comme sous hypnose, le matériel apparut et les résistances céda. On peut dire que là, on pourrait commencer à se poser des problèmes. Et on va à ce moment-là déduire de l'interprétation du rêve la fameuse scène...
La scène dite primitive. Où justement la blancheur des loups se transmet à la blancheur des draps d'une scène érotique.
Alors, scène primitive absolument extraordinaire, mais encore une fois qui est reconstruite. Je crois que c'est un point.
On va y revenir, oui, oui.
C'est pas une vision de l'homme loup, c'est pas une hallucination, n'est-ce pas? C'est une reconstruction qui se déduit de l'interprétation du rêve à partir des associations du rêveur et qui aboutit à cette hypothèse. Alors, Elisabeth Rudinesco a parfaitement raison. Stupéfiante, de détail. C'est quelque chose qui paraît un peu fou même, il faut bien le dire, parce que on aboutit à considérer que l'enfant malade, n'est-ce pas, à 18 mois, aurait une chaude après-midi, n'est-ce pas, d'été, atteint de malaria avec la fièvre, n'est-ce pas, aurait, en se réveillant, aperçu ses parents qui faisait l'amour, qui était en train de faire l'amour, dans une position précise qui est le coït atergo, donc par derrière, n'est-ce pas, qu'il aurait donc aperçu à ce moment-là aussi les organes génitaux de ses parents, ce qui n'est pas du tout évident d'ailleurs d'un point de vue anatomique, mais c'est un autre problème.
Dans cette position.
Dans cette position, c'est un autre problème. Il aurait aperçu ses parents, ce jeune couple en train de faire l'amour, n'est-ce pas? Il aurait aperçu le visage, le plaisir inscrit sur le visage de la mère. Il aurait interprété cette scène comme une scène de viol, comme une scène de violence. Les parents auraient pratiqué trois fois le coït, enfin c'est quand même très précis, à 5 heures de l'après-midi, n'est-ce pas? Et bien sûr, sur des draps blancs. Il aurait, à ce moment-là, il se serait mis à crier, il aurait manifesté son mécontentement, et il aurait en même temps lâché une selle, ce qui va devenir un élément extrêmement important dans l'érotisme anal de Sergueï. Alors, bien sûr, cette scène, elle est absolument stupéfiante. Et Freud ne va pas cesser d'être hanté, comme d'ailleurs l'homme au loup, on verra pour des raisons différentes, n'est-ce pas, totalement hanté par la précision de ce qu'ils sont en train de reconstruire. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. Il s'agit moins d'une interprétation, n'est-ce pas, que d'une construction.
Alors, tout de même, Roland Gori, dans la perplexité qui semble être le lot de nombre de psychanalystes qui donc sont revenus sur ce cas célèbre de l'homme au loup, une des raisons importantes, c'est quand même justement cette reconstruction. En dehors du fait, comme on l'a montré depuis le début, que cette cure finalement s'est étendue pratiquement sur toute sa vie et qu'on peut on ne peut pas dire qu'il ait été guéri au sens classique du terme. La reconstruction a posteriori que fait Freud de la névrose infantile d'un garçon de 4 ans, évidemment, ça pose problème quand même.
Alors, il y a plusieurs problèmes et plusieurs manières d'aborder cette question. Le premier point, c'est le souci de Freud à ce moment-là, de réagir aux réinterprétations que Jung et Adler font de la sexualité infantile comme cause des névroses adultes. Et là, son patient lui apporte sur un plateau, bien évidemment, si vous voulez, c'est un peu trop beau pour être vrai, c'est vrai, hein, de mon point de vue, c'est vrai, il lui apporte sur un plateau, finalement, une contre-expertise, pourrait-on dire, des réinterprétations que font Jung et Adler du rôle de la sexualité infantile dans le déclenchement des névroses. Ça, c'est un premier point. Ça va énormément jouer. Et il est vrai que le transfert de Freud, pour aller vite, sur ses disciples, qu'il s'agisse de Jung, qu'il s'agisse d'Adler ou ultérieurement de Ranke, puisqu'il va écrire en 1926, n'est-ce pas, à l'homme au loup, où justement Ranke également va dire mais non, mais cette histoire de rêve, Freud n'a rien compris, c'est un rêve transférentiel. En quoi, à mon avis, il a raison, c'est notre problème, c'est un rêve transférentiel. Là où il a sans doute tort, c'est qu'il ajoute et ce rêve n'a jamais eu lieu dans l'enfance, ça on n'en sait rien. Si on est juste, on n'en sait rien, on peut pas le savoir. Pas davantage les tueurs de Freud que nous, hein, c'est clair. Et dit Ranke, vraisemblablement, l'homme loup a aperçu une photo de Freud avec ses disciples, et les six loups, eh ben, bien sûr, ce sont les six disciples qui entourent Freud. Alors, Jones va contester, Ferenczi aussi, en disant, mais à l'époque, c'était pas possible, à cette date-là, on n'était pas six sur la photo métro, etc. Peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir quel est le statut de cette construction dans la dynamique du traitement. C'est ça le point important.
Alors, oui. Parce que l'histoire de la psychanalyse, c'est important, mais...
Voilà. Alors, je crois que, si vous voulez, c'est d'abord une confusion entre ce qui est de l'ordre du souvenir et ce qui est de l'ordre de la mémoire, au niveau de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris... Moi, je suis tout à fait, si vous voulez, dans la filiation des analystes comme Constant, n'est-ce pas, ou Serge Wiedermann, qui parlent d'une construction de l'espace psychanalytique. C'est-à-dire, est-ce que ce que l'on exhume dans la séance... Est-ce que c'est la prédiction du passé? C'est pas du tout évident, n'est-ce pas? Dès 1965, Constant, par exemple, écrit un article sur la prédication du passé. C'est-à-dire que finalement, c'est quelque chose qu'on...
Est-ce que c'est le psychanalyste qui révèle au patient son propre passé?
Alors, ça, c'est encore un point essentiel, effectivement, et c'est la différence entre interprétation et construction. C'est-à-dire que l'interprétation opère per via, dit Levar, par voie d'enlever, comme la sculpture, dit Freud. Alors, bien sûr, on va, par exemple, souligner l'équivocité d'un mot. On va rapprocher associations d'idées. On va, si vous voulez, relever un détail qui est passé inaperçu. On va recentrer quelque chose par rapport à la situation analytique. Là, on est dans l'interprétation. On est dans le travail d'archéologie du transfert aussi. Ou bien, est-ce qu'on est per via di port, par voie d'ajout, n'est-ce pas ? Et on va donner un tableau, une peinture, et là, on est dans la construction. Et je crois que vraiment, incontestablement, l'homme au loup est quelqu'un qui a largement contribué au texte ultérieur de Freud sur construction de l'analyse. C'est pas du tout la même chose. Donc, à mon avis, si vous voulez, cette œuvre transférentielle qui a été créée, qui est la scène primitive, reconstruite à partir d'interprétation des rêves, elle n'a d'effet et de valeur qu'en tant que fragment transférentiel négocié entre Freud et Sergueï. Voilà mon sentiment.
Alors, c'est un cas tout à fait important dans l'histoire de la psychanalyse, qui est à l'origine aussi d'un certain nombre de concepts importants. On a évoqué celui de scène primitive. Il y a aussi celui de forclusion, de deuil et de mélancolie. Donc c'est un texte extrêmement important dans l'histoire de la psychanalyse. Et il est vrai que nombre de grands psychanalystes se sont intéressés à ce cas et en ont, d'une certaine manière, prolongé l'histoire, finalement.
Tout à fait. Alors, on pourrait dire que ce cas est devenu mythique et que chacun donne un peu les différentes versions du mythe. Et encore une fois, même les tueurs de Freud, même Mahony et d'autres, n'est-ce pas, sont quelque part dans une version haineuse du mythe, mais quand même dans le même mythe. Alors bien sûr, le danger, et là on revient à la question de la construction, le danger c'est que finalement le récit de cas devienne le prêt à penser de tous les postulats doctrinaux des uns et des autres. Alors chacun y est allé un petit peu de sa ritournelle. Je crois que ça revient à la question évoquée précédemment, c'est-à-dire d'abord, qui fait l'analyse, à qui appartient la paternité de l'œuvre analytique et de la construction. Si effectivement on a comme conception que la psychanalyse est faite par le psychanalyste, alors bien sûr on peut procéder à une espèce de lecture directe du cas, et chacun va essayer de rassembler le maximum d'indices convergents pour étayer finalement ses hypothèses. C'est pas du tout la voie sur laquelle je m'engagerai. Et je pense pour ma part, si vous voulez, que l'analyse, elle est toujours l'analyse de celui qui dit, c'est-à-dire de l'analysant. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la question que pose justement le récit de l'homme au loup, n'est-ce pas, c'est la position de Freud dans cette affaire, et on voit bien jusqu'où, finalement, il conserve un peu une maîtrise, pourrait-on dire, dans l'interprétation du matériel, et c'est peut-être le point où ça chope, avec des éléments qui ne sont pas que négatifs. Il faut quand même, vous comprenez, on dit qu'il n'est pas guéri, peut-être qu'il n'est pas guéri. Toujours est-il qu'en dehors des deux dernières années de sa vie, il n'a pas vécu totalement en hôpital psychiatrique. Or, il aurait pu.
Non. Il s'est d'ailleurs de lui-même identifié à l'homme au loup très rapidement lorsque. Alors, le nom même de l'homme au loup, c'est donc.
C'est Ruth Mac.
C'est Ruth, voilà, absolument, qui lui a. Ruth Mac Brunswick, qui lui a attribué. Et d'une certaine façon, il a continué à jouer le jeu de cette. De ce tableau qu'on lui a fait de sa propre névrose.
Oui, alors c'est un point qui est très important, puisque à la fois justement c'est un cas extrêmement énigmatique, et je pense que nous n'en avons pas fini de chercher à percer le mystère sans y parvenir, si vous voulez. Et en même temps, ce qui s'est passé avec Freud, n'est-ce pas, a fait contention psychique. C'est-à-dire que ce qui a été construit avec Freud, n'est-ce pas, a finalement tenu l'homme au loup. Et quand Freud, justement, à la suite d'une publication de Rank sur la technique psychanalytique, ou lorsque Rank met justement en doute, n'est-ce pas, la réalité du rêve et la réalité donc de la scène primitive, mais surtout le moment où le rêve est apparu. Et quand Rank pense que peut-être ce rêve est apparu au cours de l'analyse et non pas durant l'enfance, Freud écrit, et c'est un des gros problèmes transférentiels dans cette histoire du côté de Freud, n'est-ce pas ? Freud écrit à ce moment-là au l'homme au loup. Et à ce moment-là, il y a une décompensation paranoïde de l'homme au loup, n'est-ce pas ? Et à partir de ce moment-là, on peut dire que ça aggrave les symptômes de délire hypochondriaque et paranoïde de l'homme loup qui cherche sur son nez les traces de quelque chose, n'est-ce pas, qu'il n'arrive plus à saisir psychiquement. Robert Pujol a écrit un très beau texte là-dessus, sur Scène primitive à revoir, n'est-ce pas, où il montre comment, avant, l'homme loup attendait un souvenir qu'il ne venait pas, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas ce qu'il savait, et au moment où Freud lui écrit, à ce moment-là, il fait basculer complètement son équilibre psychique, il est déstabilisé, et à partir de ce moment-là, il essaie, à partir du miroir portatif, comme à partir justement de ce que peut lui raconter Ruth Macrosvick, il essaie de voir, n'est-ce pas, et il n'arrive plus à savoir ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il ne peut plus conserver la trace même, si vous voulez, de ce qu'il vient de voir sur le nez.
Alors qu'avant, il ne savait pas ce qu'il voyait, mais voilà. Il le voyait. Alors, vous évoquiez, Roland Gori, les couplets de nombre de grands psychanalystes dans l'histoire à propos de ce cas emblématique de l'homme au loup. Voici la ritournelle de Gilles Deleuze.
Alors, ça se passe comment dans la tête de Freud, qui écoute ce monsieur couché sur le divan lui disant « 6 ou 7 loups ». Freud, il n'entend pas 6 ou 7. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas pour une raison très simple. On verra laquelle. De toute manière, la multiplicité, la meute, c'est l'ennemi. Donc il ne peut pas entendre puisqu'il s'agit de purger les loups de leur multiplicité. Il faut que les loups dégorgent leur propre meute. Il y a une méthode célèbre pour ça, ce qu'on appelle l'association libre. Il permet bien des coups de pouce, parce qu'après tout... Alors Freud, il dit, tiens, 6 ou 7 loups, c'est pas normal, ça, quand même. Bon. Mais après tout, là, il sollicite un peu, et l'homme au loup dit, mais oui, quand j'étais petit, j'ai lu un conte, qui s'appelait « Le loup et les 7 chevreaux ». Vous voyez l'opération, c'est terrible. Voilà que les loups sont en train de perdre leur multiplicité au profit de chevreaux qui n'ont rien à faire avec l'histoire. Absolument rien. Et dès lors, il n'y a plus 6 ou 7 loups, il n'y a plus qu'un loup. 7 loups jôtent 6 chevreaux, reste un loup. Et le loup, c'est quoi? Eh bien, on y est, c'est le chien du psychanalyste, à savoir, c'est ton papa.
Roland Gori.
Oui, alors je pense que Gilles Deleuze, avec beaucoup d'humour et de finesse, n'est-ce pas, atteste de la manière dont les patients peuvent effectivement devenir des martyrs d'une cause doctrinale. C'est-à-dire que vous l'avez dit, chacun y va un petit peu de sa ritournelle. Je crois que ça renvoie encore une fois à qu'est-ce que c'est que la psychanalyse et sur quoi elle travaille. N'est-ce pas ? La psychanalyse, c'est une méthode mise en acte dans une pratique qui permet à un sujet de revisiter, si vous voulez, quelque chose de sa position par rapport à l'inconscient, c'est-à-dire par rapport à la sexualité, par rapport à l'infantile. Donc, ce qui est visé, c'est la mémoire. Ça n'est pas le souvenir. Je crois que c'est un point qui est aussi extrêmement important. Ce sur quoi on travaille, c'est la mémoire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire se rappeler sans se souvenir. C'est ça, c'est ce sur quoi nous travaillons. Alors, bien sûr, là, avec Freud, on a l'exemple d'une construction où, aussi bien Freud que finalement les analystes comme Gardiner et autres, enfin, tous ceux qui ont pris la suite de Freud et l'homme au loup attendent qu'ils se souviennent, c'est-à-dire qu'ils viennent boucher un trou.
Merci Roland Gori, je rappelle que vous êtes psychanalyste et l'auteur de Logique des passions aux éditions Flammarion. C'était le dernier volet de cette série consacrée aux 5 psychanalyses de Freud.